Tout de suite, les infos.
Pour rester informé tout au long de la journée, écoutez Radio Oméga. 103.9 Ouaga, 104.7 Obodioulasso. Radio Oméga, le journal. Les titres de l'actualité. Denis Zungrana.
La commune de Mansilla pourrait disparaître de la carte du Burkina syrienne et faire au plan insécuritaire. C'est ce que pense l'association pour le développement socio-économique de la dite commune. Projet de valorisation des trois barrages Ouagadougou. Les habitants touchés dans le quartier Nemlin refusent de déguerpir. Il n'y a pas de cas révéré de l'Ebola au Burkina, mais de choléra. Un deuxième cas justement confirmé a été détecté au centre médical de Kantiari dans la région de l'Est. Le tourisme interne est en bonne position aujourd'hui avec l'avènement de la crise sécuritaire dans le pays. C'est ce que pense notre invité du jour, Alphonse Tougma, directeur général du Fonds de développement culturel et touristique. Bonjour et merci de vous informer sur les ondes de la radio Oméga. Attaque terroriste dans le Sahel. Mansilla, une commune située dans la province du Yaga, se meurt à cause de la famine qui fait rage depuis quelques temps. Les besoins sociaux de base font un défaut dans cette partie du pays. C'est l'association pour le développement socio-économique de la localité qui le dit. Face aux journalistes hier, les premiers responsables de la structure ont une fois de plus interpeller le gouvernement à réagir en faveur des populations de la commune. Le point avec Joël Sauré.
L'état de siège imposé par des groupes armés dans la commune de Mansilla depuis 2 années maintenant semble évoluer en embargo. C'est l'association pour le développement socio-économique de la dite commune qui le dit. Face à la presse, ce dimanche 29 août, l'ADSEM décrit une situation chaotique vécue par les populations de cette localité de la province du Yaga. Mansilla se meurt, dépourvu de tout minimum vital pour une probable survie. Abdoul Rahim Bari, secrétaire général adjoint de l'ADSEM.
Depuis décembre 2020, les populations ne disposent plus de vivres parce que les greniers ont été vandalisés, les marchés fermés, le transport interrompu, les réseaux de communication abîmés. Actuellement, par manque de vivres, la majorité des familles se nourrissent exclusivement des feuilles et d'herbes comestibles. Dans ce contexte, il faut signaler l'impossibilité des populations à cultiver. Également, le manque d'eau potable pousse les populations à consommer les eaux sales, probablement contaminées par des cadavres d'humains et d'animaux. Le pire que nous avions prédit à la conférence de presse du 11 avril 2021 est finalement arrivé. La famine sévit gravement à Mansilla et nous enregistrons des pertes en vie humaine, les assassinats, les enlèvements de personnes et les pillages du bétail continuent.
Tout en saluant les efforts conjugués par les forces de défense et de sécurité, puis les volontaires pour la défense de la patrie, l'ADSEM se veut inquiet car Mansilla pourrait disparaître de la carte du Burkina si rien n'est fait. Abdoul Rahim Bari, secrétaire général adjoint de l'ADSEM.
Nous vous demandons d'être notre relais auprès des autorités de notre pays et de toutes les bonnes volontés à travers le monde afin de soutenir les populations de Mansilla à renouer avec leur dignité à travers l'alimentation, l'éducation de leurs enfants, la liberté d'aller et venir, de se soigner, avoir de l'eau potable, s'inscrire à l'état civil, etc.
Soudainement devenu veuf, ce torpailleur parti entre-temps à la recherche de sa pitance peut enfin maudire la faim. Malgré l'argent qu'il a envoyé et que son épouse n'a pu en profiter, elle perd la vie le 25 août dernier alors qu'elle quittait Mansilla pour chercher de quoi se nourrir, laissant derrière elle 4 enfants et une communauté meurtrie. Une peine pour l'ADSEM qui n'exclut pas toute autre forme d'interpellation dans l'espoir de voir Mansilla sauvé.
Merci à Joël Lassoré. Autrement, si là d'autres communes telles Madjouari subissent la terreur des terroristes, une situation qui nécessite une réponse sécuritaire à la hauteur. Justement, parlant de réponse à sécurité, cette réponse pourrait venir justement de cette sortie de promotion, la 20e promotion donc des officiers d'active et de la 11e promotion des officiers spécialisés, une cérémonie qui s'est déroulée à l'Académie militaire Georges Namoano. Ils sont au total 60 stagiaires officiers d'actifs, dont 5 femmes de 14 nationalités et 10 officiers spécialisés, tous de nationalité burkinabé, à recevoir le parchemin au cours d'une cérémonie. Abdelaziz Azoulabou.
La prestigieuse école de formation des cadres supérieurs de l'armée située à Pau, comme chaque année, vient de mettre à la disposition de l'armée burkinabé des hommes et des femmes prêts à servir et à défendre la patrie. 2 années pour les officiers d'actifs et 1 an pour les officiers spécialisés. Le temps passé à l'Académie militaire Georges Namoano par les impétrants. Ils ont ainsi reçu au cours de leur formation les rudiments nécessaires en phase avec la situation sécuritaire que connaît le Burkina Faso pour plus d'efficacité sur le terrain. Lieutenant-colonel Didier Bamouni, commandant de l'Académie militaire Georges Namoano.
Entrés respectivement le 14 décembre 2019 et le 28 novembre 2020, les 20e et 11e promotions sont au terme d'une formation militaire en constante adaptation aux défis actuels et futurs. C'est dans ce sens qu'en plus de renforcer les fondamentaux opérationnels, l'école a inscrit pour cette année académique un stage pratique corps de troupes destiné à permettre aux futurs chefs d'exercer pleinement leur rôle d'instructeur et de gradé.
À tout seigneur, tout honneur, le major de la promotion reçoit ses épaulettes des mains du président du Faso. Désormais sous-lieutenant, les fioles de Yero Boli, ancien ministre de la Défense, mesurent l'ampleur des défis à relever une fois sur le terrain et pensent y être bien préparés. Jules Chris Natama, délégué de la promotion.
Nous sommes fiers de notre formation qui nous a gratifiés de tous ses atouts et rudiments nécessaires pour commander et venir à bout de l'extrémisme. Nous tâcherons d'être à la hauteur et de défendre les couleurs de cette noble et prestigieuse école, en apportant notre touche à la lutte contre le terrorisme et à la sécurisation de nos frontières.
Renaissance est leur note de baptême et cela trouve son sens à bien de niveaux. Rochmar Christian Kabouré, président du Faso.
La Renaissance va permettre évidemment d'avoir une armée qui non seulement va se battre pour la défense de la patrie, mais va créer également un certain type de relations également avec les civils, de manière à ce que nous puissions non seulement combattre nos ennemis, mais participer également au développement de notre pays.
L'Académie a été créée le 18 octobre 1984 sous la dénomination d'Académie militaire de Pau. Elle passe l'année suivante à Académie militaire Georges Namoano, en hommage à Georges Namoano, élève officier décédé lors d'une mission.
Roch Kabouré, le président du Faso, a présidé, vous l'aurez compris, cette cérémonie de sortie de promotion. Sur ses réseaux sociaux, Roch Kabouré a réagi au lynchage des 3 agents du CCVA à Burumburum, dans le sud-ouest, suite à la mort accidentelle d'un enfant impliquant leur véhicule. Le président Kabouré a rassuré que ces meurtres d'une autre époque ne sauraient rester impuni dans un état de droit, tout en regrettant le décès accidentel ce 27 août 2021 d'un enfant dans la localité de Banlo, commune rurale de Burumburum. Je condamne énergiquement l'assassinat barbare des agents du centre de contrôle des véhicules automobiles impliqués dans l'accident de circulation, a écrit Roch Kabouré sur ses réseaux sociaux. Je présente mes condoléances aux familles des victimes et invite la justice à poursuivre les investigations pour situer toutes les responsabilités. Ça grogne à Nemlin, quartier de Ouagadougou, dans le cadre des projets urbains de la commune où il est prévu la valorisation des 3 barrages de la ville. Dans le cadre de ce projet, des habitations devraient être touchées dans certains quartiers comme Paspanga, Dapoya et Nemlin. Mais déjà, les propriétaires des habitations qui seront impactées dans le quartier Nemlin disent ne pas être au courant de leur déguerpissement futur et par conséquent ne sont pas prêts à quitter les lieux. Ils ont observé un mouvement d'humeur hier dans leur quartier pour traduire leur mécontentement et leur refus, suivant le compte-rendu de Romain Ouaré.
Ces habitants disent ne pas être au courant de leur relocalisation. Mieux, ils pensent que dans la mise en œuvre du projet, les exécutants outrepassent ce qui serait prévu. Ils sont montés au créneau pour exprimer leur désarroi.
Mahamadi Ouedraogo
est le président de la coalition des habitants touchés par le dégrépissement.
Concernant un projet appelé projet troisième pont. Et au début, c'était les hangars qu'ils sont venus faire, les recensements. Nous, on n'était pas contre. On était fiers parce que la voie qui mène du BCAO jusqu'au troisième pont à l'envers Tanguin, c'est les hangars qui étaient prévus à déguerpir et élargir. À notre grande surprise, à partir du feu de la rue pavée, en allant vers le bas-fond, ils décident de recenser deux maisons à gauche, deux maisons à droite, plus de 76 concessions, en les proposant des dédommagements et des parcelles à Samba, à Koumsilga, sans nous avertir au préalable. Les propriétaires du projet nous ont fait entendre que le mairie est au courant du projet depuis 2019. Donc, ce que nous n'arrivons pas à comprendre, pourquoi le mairie et les conseillers sont au courant de ce projet qui doit toucher nos concessions et qui ne nous ont pas avertis avant cet recensement. D'ailleurs, nous avons réuni les jeunes, nos vieux et nos papas pour vous dire que nous sommes, oui, pour le projet troisième pont en allant vers le Tanguin et non au déguerpissement de la population de Némené.
Les manifestants estiment que les réalisations prévues à la place de leur maison n'ont pas d'utilité publique. Mahamadi Ouedraogo.
Dans votre projet, vous parlez de remplacer nos maisons, nos concessions à des lieux de loisirs, d'élevage de chevaux, de terrains de golf ou je ne sais quoi. Donc, ce n'est pas une utilité publique, c'est des foutaises. Nous considérons ça comme des foutaises.
Dans les prévisions du projet de valorisation des trois barrages de Ouagadougou dans un partenariat privé-public, au moins 829 cours en zone lotie et 781 parcelles irrégulières sur des espaces non lotis seraient recensés dans le périmètre. Mais déjà, des gorges chaudes à certains endroits concernant la procédure d'expropriation de ces espaces.
Santé à présent, un deuxième cas confirmé de choléra a été détecté au centre médical de Kantiari dans la région de l'Est. L'information est du ministère de la Santé. Le patient âgé de 32 ans, conducteur de camion citerne de nationalité malienne, aurait séjourné à Zendé 2 jours à Koni et 3 jours à Niamey en République du Niger. Avant d'ajouter que les résultats des prélèvements fournis le 29 août dernier par le laboratoire du centre hospitalier régional de Fadangouma permettent de confirmer une diarrhée due au vibrio choléra, le ministère de la Santé rassure que le patient est actuellement hospitalisé au centre médical de Kantiari et son état clinique est stable. Le communiqué du ministère note qu'il s'agit d'un deuxième cas isolé et probablement importé. En rappel, le premier cas de choléra avait été confirmé le 15 ou dernier à Tanwalbougou, toujours dans la région de l'Est.
La revue de presse.
La revue de ce lundi porte la signature de Wizin-Louis Oulon.
Les zones de choc du lynchage des trois agents du centre de contrôle de véhicules automobiles ressenties dans les colonnes des journaux de ce lundi. La consternation du journal Le Quotidien est partagée par l'observateur Palga et aujourd'hui au Faso qui regrette que la loi du talion remplace la justice. Horrible, effrayant, inhumain, s'indigne l'observateur Palga qui dit manquer de mots pour qualifier la situation. Au-delà de l'indignation collective, Sidoya pense que la justice doit reprendre la main pour qu'enfin la flopée de mesures annoncées ou prises serve enfin à recoudre le tissu social qui s'effiloche. Dans un pays où les populations sont de plus en plus enclines à se rendre justice elles-mêmes, ce pays inéluctablement court à sa perte, qu'augmente le quotidien. Plus jamais ça, s'exclame l'observateur Palga, qui revient sur la décision du gouvernement de fermer le lycée Philippe Zenda Kabore. Mon confrère ne cache pas ses inquiétudes et parle de solutions de tous les dangers. Le journal émet des réserves notamment sur les capacités d'accueil des 74 établissements et craint par ailleurs que la communauté éducative, syndicats et parents d'élèves qui n'a pas été consultée ne rue dans les brancards les jours prochains. Les réformes au ministère de la Défense, les journaux en parlent. Enfin, une stratégie nationale en gestation, se réjouit Le Quotidien. De grandes réformes en vue, titre aujourd'hui au Faso. Et cette phrase choc de Luc-Marius Ibriga dans le journal Le Quotidien dans une société corrompue, il ne peut que se développer le terrorisme, dit le contrôleur général d'État. L'éditorial du pays est consacré aux décisions de la justice malienne d'élargir Bandao et Mokhtar Wane et de faire emprisonner les anciens collaborateurs d'Ibeka. Mesure qualifiée de danse de tango d'Assimi Goïta, le journal pense qu'un programme de société pourrait se cacher derrière ces arrestations. Donner l'illusion qu'il n'est pas un prédateur des droits humains et signifier parallèlement aux Maliens qu'il a le profil de l'homme qui peut assainir le pays. Mais tout ça n'est ni plus ni moins que de la diversion, analyse le pays. Aujourd'hui, au Faso revient sur le décès de l'homme politique sénégalais Alioune Badara Cissé. Le diplomate vérité de Macky Sall s'en est allé, titre le journal, pour qui Alioune Cissé fait partie de la galaxie des politiques de l'après-Ouad formée par Gorgui, la fournée de ceux qui ont contesté les ambitions du CAR bloquant la modification constitutionnelle de Ouad et son désir de dévolution filiale du pouvoir.
Omega Sport.
La finale de la Coupe de l'Excellence a connu son dénouement en samedi dernier à Koudougoum. 16 équipes dans la catégorie des cadets ont participé à la 4e édition de ce tournoi à Maracana du secteur 1 de la ville, initié par l'association Excellence. La finale a opposé les jaunes de la SEC et l'étoile en bleu. Le compte-rendu avec Sabuna Ouedraogo.
Il a fallu attendre les tirs au but pour départager les deux formations qui n'ont pas pu trouver le fond des filets durant le temps réglementaire. Dans ce jeu d'adresse, c'est l'étoile de Koudougou qui a eu raison de la SEC. Le bon déroulement de cette compétition satisfait les organisateurs qui veulent donner une autre dimension à cette activité. Honoré Zongo est membre du groupe Excellence.
J'ai assisté à une belle finale ce soir qui a opposé deux jeunes équipes très talentueuse et qui a permis donc à notre groupe de pouvoir doter conséquemment les équipes en kit scolaire. Actuellement, c'est limité seulement au secteur 1, mais notre ambition, c'est d'étendre ça à tous les autres secteurs du Koudougou. Bon, on est en train de mijoter quelque chose.
Le parrain de cette finale salue cette approche qui permet aux jeunes de se retrouver pendant les vacances et de tisser des relations amicales. Christian Caboret.
Nous avons eu le plaisir d'accompagner ce groupe parce que c'est une très belle initiative qui organise les jeunes pendant les vacances autour d'activités culturelles, d'activités sportives et d'activités éducatives. Vous avez vu la motivation qui a été donnée aux jeunes.
À l'heure des récompenses, toutes les équipes ont eu des prix d'encouragement. Le gros lot est revenu à l'étoile de Koudougou qui est reparti avec le trophée, un ballon, un jeu de maillot et une enveloppe. Rendez-vous est pris l'année prochaine pour le 5e acte. Sabuna Ouedraogo, Koudougou, Radio Omega.
L'invité du jour. L'invité du jour.
Le tourisme interne est en bonne position aujourd'hui avec l'avènement de la crise sécuritaire. Le Fonds de développement culturel et touristique attend des actions de la part du ministère de l'Éducation pour soutenir ce tourisme. Depuis sa création en 2016, le Fonds a investi plus de 3 milliards de francs CFA dans l'industrie culturelle, mais il peine à répondre à 10% des besoins des acteurs. Cela est dû à l'insécurité et à la COVID-19. Alphonse Tougma est le directeur général du Fonds. Il répond aux questions de Mouni Yaro.
Bonjour DG.
Bonjour à vous et bonjour à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent en ce moment.
Quelles sont les missions du fonds?
Avant tout propos, j'aimerais m'incliner sur la mémoire de nos disparus et aussi souhaiter prompt rétablissement aux blessés suite aux attaques terroristes en ce moment. Pour revenir à notre mission, il faut se dire que le Fonds de développement culturel et touristique a été mis en place pour soutenir durablement les industries culturelles et touristiques. À cet effet, c'est de contribuer significativement à la création de la richesse à travers le secteur de la culture et du tourisme. Donc nous donnons des financements, nous contribuons au renforcement des capacités et surtout nous développons autour du fonds une veille informationnelle afin de présenter les opportunités d'affaires du monde de la culture et du tourisme.
Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas limité dans vos actions quand on sait que le pays est confronté à une crise sécuritaire?
Tout à fait. Lorsqu'on est dans une action, on ne peut pas toujours être à 100% de satisfaction. Notre première limite a été que, du moins est que, nous arrivons à peine à répondre à 10% des besoins que les acteurs nous expriment. Deuxièmement, du point de vue sécuritaire, il y a eu aussi la crise sanitaire et ça a fortement impacté notre action 2020-2021. Donc nous avons des prêts que nous donnons aux gens. Figurez-vous qu'une bonne partie du territoire ne peut plus exercer les activités. Pour un promoteur de spectacle, par exemple, lorsque vous avez des concerts au nord et au Sahel actuellement, encore aussi à l'est, il est difficile d'avoir accès. Ça limite donc leur action et nous aussi, ça nous limite dans nos interventions.
Quelles sont les mesures d'accompagnement pour ces promoteurs?
Au cours de l'année 2020, nous avons, en ce qui concerne les prêts, décalé 5 mois le paiement des traites. Nous avons assoupli vers la fin de l'année les conditions d'accès à nos prêts en supprimant par exemple l'apport personnel et nous sommes en train d'aller dans la logique de ne plus que donner des prêts aux entreprises mais également de les accompagner à travers des subventions pour les rendre plus opérationnels. Ça c'est quelques actions. Pour ce qui est de ceux qui avaient des subventions pour mener des activités dans certaines zones à risque, nous leur avons permis de se réorganiser et de se déployer vers d'autres zones. Nous avons aussi aidé certains à remettre en place leur système comptable, le système marketing. En tout cas, on a été plus proche d'eux pour qu'ensemble nous puissions juguler les effets de la crise.
Et qu'est-ce qui est fait pour encourager les Burkinabés à fréquenter les lieux touristiques?
Depuis un certain temps, au niveau de la politique nationale de la culture et du tourisme, c'est d'inciter plus le Burkinabé au tourisme interne. Il faut que nous consommons nos propres produits en attendant le retour, bien entendu, des touristes. Et aujourd'hui, le tourisme interne est en pole position au niveau du ministère et ça fait partie des axes forts de la gouvernance touristique. Nous comptons aussi sur la réforme de l'éducation où à travers le système éducatif, il faut quand même permettre de mettre des éléments qui nous façonnent, qui nous éduquent à fréquenter nos lieux touristiques. C'est cette base-là aussi qu'il faut construire. Et je crois bien que le ministère n'est pas en reste pour apporter sa contribution à ce niveau.
Le fonds a été créé quand et combien avez-vous injecté dans le monde touristique?
Nous avons été créés en 2016 et aujourd'hui nous sommes à plus de 300 projets financés pour un montant de plus de 3 milliards et demi. Et je crois que les projets se portent très bien et aussi c'est l'occasion de dire bravo aux promoteurs parce que les habitudes sont en train de changer positivement.
Quelles sont les actions à venir si on prend déjà 2021 ou 2022?
En 2021, c'est d'abord l'évaluation du fonds où nous sommes en cours pour permettre de nous auto-évaluer et voir comment réorganiser le fonds. Il y a surtout que cette année, nous allons lancer 5 appels à projets en un. Ça veut dire qu'en octobre, nous allons rattraper le cycle de l'année pour que dès le 1er janvier, ceux qui ont des activités puissent le faire. Donc, il y aura 5 appels à projets en même temps en octobre pour diversifier plus l'offre pour les promoteurs et également être plus rationnel dans la gestion de financement.
Qui sont ceux qui sont soumissionnés?
Ceux qui soumissionnent, ce sont des promoteurs culturels et touristiques, c'est des associations ou des entreprises. En ce qui concerne l'appel à projet avec notre partenaire de l'Union européenne, là-bas, les entreprises sont éligibles à la subvention. Pour les 4 autres appels à projet, c'est des subventions destinées aux entreprises touristiques et culturelles pour l'appel classique. Avec la coopération suisse, nous aurons 2 appels à projets et là-bas, spécifiquement les entreprises culturelles. La bonne nouvelle, c'est l'ouverture de l'antenne régionale de Haut-Bassin dans le cadre du programme avec l'Union européenne. Donc, ce sont ces 5 appels à projets que nous allons lancer en même temps, en octobre, en espérant que dès le 1er janvier, nous allons être prêts pour que les uns et les autres se déploient sur leurs projets.
Merci, Didier.
C'est moi qui vous remercie.
C'était l'invité de la rédaction.
Alphonse Tougma, directeur général du Fonds de développement culturel et touristique. Edwige Tsenderbego, la technique. Denis Zungrana au micro. C'est tout pour cette édition.
Radio Omega, l'info en direct.
Et tout de suite, les infos.